Je sais, il m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois.
Est-ce que tu le crois?
Je le crois.
Mes fautes,
mes fautes sont effacées. Et mon péché oublié, je le crois.
Oh oui, je le crois.
Je le crois.
J'élève.
J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur.
Mon rédempteur.
Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur.
Tu m'as libéré,
tu m'as libéré. Je te suivrai, j'ai levé ma main pour t'adorer. Je veux te voir régner,
mon rédempteur,
mon rédempteur vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur.
Ah, vous êtes heureux, ça se voit sur vos visages.
Mon rédempteur,
oh, mon rédempteur.
Mon rédempteur vie. Mon rédempteur vie. Mon rédempteur vie.
Bonjour à vous tous. Je vois que vous me comprenez de plus en plus rapidement. Ça me rassure. Je suis content encore une fois d'être avec vous. Le titre du message ce midi est « La foi dans la vie ». C'est un message en deux portions aussi. Je vais reprendre ce thème-là ce soir avec un autre aspect particulier. La question qui est rattachée à cette dimension de la foi dans la vie, c'est comment la foi peut changer le cours de votre vie. Ce message particulièrement s'adresse à vous tous qui n'arrivez pas au bout ou à bout de ce que vous vivez, ce que vous voulez vivre. Vous n'arrivez pas à dénouer telle situation, telle relation, à résoudre telle difficulté. Vous ne voyez pas littéralement le jour où votre condition va changer ou votre situation va s'améliorer. Et on va voir dans quelques instants l'histoire particulière de quelqu'un dont la condition était vraiment désespérée. Une condition incroyable. On va voir ensemble comment elle a réussi à dénouer l'impasse dans laquelle cette personne était depuis des années. On va regarder ensemble le facteur principal qui lui a permis de changer le cours de sa vie, de sa destinée. Et on va assister à un dénouement incroyable, comment cette personne a su et a pu dépasser les conditions réelles de sa vie pour atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. On va regarder ça ensemble en détail. Si vous voulez, on va regarder au texte, un texte que vous connaissez bien, mais je crois, par la grâce de Dieu, qu'on va encore découvrir des facettes que vous avez probablement pas remarqué. Alors, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ici, il y a un facteur particulier qui a permis de dénouer cette situation incroyable. Pour 200 euros, quelqu'un peut me dire quel est ce facteur? La foi, bien sûr, la foi. Et pourquoi on sait que c'est le facteur? Parce que c'est le point ou l'aspect sur lequel Jésus a insisté. Ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est un peu comme s'il disait, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. Maintenant, on s'entend bien que c'est Jésus qui a fait l'œuvre de guérison miraculeuse. Mais Jésus a pu faire quelque chose parce que cette dame-là avait saisi l'essence de la foi, avait saisi la dimension de la foi. Ce que je vais faire avec vous en ce début d'après-midi, je vais tenter de démonter la foi comme si elle était un mécanisme. On va tenter de démystifier la notion de foi. Parce que pour beaucoup de gens, la foi, c'est comme représentatif un peu d'un objet ou d'une clé ou quelque chose. J'ai perdu la foi, je cherche ma foi. Quelqu'un a vu ma foi? Ah, j'ai pas ma foi, qu'est-ce que je vais faire ce matin? J'ai besoin de la foi. Même il y a des gens qui utilisent la foi un peu comme, vous savez, ce pneu de rechange. Okay? C'est déjà arrivé à ma femme, on avait une belle voiture neuve et tout ça, et ma femme fait une crevaison. Puis elle se met à chercher tout ce qu'on appelle le cric ou le machin pour tout ça. Puis elle est prise sur le bord de l'autoroute. Puis elle m'appelle sur le portable, sur le téléphone portable. Mais je ne sais pas, moi. Puis il y a plein de gens qui s'en vont dans la vie comme ça. Et à un moment donné, ils ont besoin de la foi et ils ne trouvent pas la foi. OK? Comme si la foi était un objet très particulier. Maintenant, vous voyez que juste dans le titre de ce message, lorsque je parle de la foi dans la vie, c'est un peu paradoxal. Qu'est-ce qu'il veut dire, le frère? Il faut croire en la vie? Non! Je veux dire que ça prend de la foi dans la vie. Ça prend de la foi tout au long de la vie. La foi n'est pas une option temporaire pour les moments de crise ou les moments de difficulté. La Bible, elle dit que le juste, il vit, lui, par la foi. Le juste vit par la foi. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne. C'est la foi dans la vie. C'est la foi présente à chaque aspect de la vie, à chaque moment de la vie. La notion de foi dans la vie est importante parce qu'à mon avis, c'est une des clés qui permet justement de dénouer plein de choses dans la vie. La foi nous pousse à aller de l'avant. Est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est par la foi que les enfants apprennent à marcher? Vous avez déjà réalisé ça? Les grands-parents, les parents, tout ça. On regarde ce petit bout d'homme, ce petit bout de jeune fille plutôt, et elle est là, puis on voit qu'elle travaille fort, elle désire marcher. Un jour, je vais marcher, surtout quand c'est le deuxième ou troisième enfant, puis voit ses grands frères et ses grandes sœurs qui se déplacent à la vitesse incroyable. Il y a cet enfant-là, moi j'ai vu toute l'énergie, surtout de mon dernier fils, là, parce qu'il avait ses trois grands frères, puis il veut marcher, je veux marcher. C'est une démarche de foi, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a cette conviction profonde, un jour je serai capable. Mais dans tout cet effort-là, okay, nous on sait, on a la tranquillité de la foi, parce qu'on sait qu'il va finir par marcher, tous les enfants finissent par marcher, puis un jour, pas sûr qu'on va être si réjouis qu'il marche à ce point, parce qu'après ça, il va commencer à courir, puis nous, on va courir après le reste de notre vie, OK? Mais l'idée fondamentale, c'est qu'il y a cette activation de quelque chose à l'intérieur qui se déclenche, qui fait que je veux ce que je veux. Maintenant, regardez bien, je vais développer un peu ma pensée avec vous encore d'introduction. La foi dans la vie, la foi d'être présente au long de la vie, la foi dans la vie, la prochaine diapo, ce n'est pas quelque chose de facultatif ou d'optionnel, c'est quelque chose de vital et d'essentiel. La foi dans la vie, ce n'est pas quelque chose de statique ou de stagnant, mais quelque chose d'actif et de dynamique. La foi dans la vie, ce n'est pas un substitut parce que l'on se sent trop petit, c'est l'appui et la confiance en quelqu'un qui est plus grand que nous. La foi dans la vie, ce n'est pas une contrainte qui nous emprisonne, mais le gage de ressources inépuisables mises à notre disposition. La foi dans la vie n'est pas l'apanage de gens faibles et craintifs, mais de ceux qui savent que la foi transcende les événements et transporte les montagnes. La foi dans la vie n'est pas de se cramponner à ce qu'on ne veut pas perdre, c'est davantage se propulser avec confiance vers notre destinée. La foi dans la vie coûte rien à ceux qui la demandent, mais ne sert à rien pour ceux qui la refusent. La foi dans la vie, c'est d'accepter que l'auteur de la vie, Dieu lui-même, a su concocter la vie de façon à ce que nous puissions nous reprendre malgré l'échec, rebondir malgré le drame, triompher malgré les obstacles, à la seule condition d'avoir la foi présente tout au long de notre vie. Cette foi n'est pas facultative, elle n'est pas optionnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise encore une fois au besoin. Le juste vivra par la foi. Cet après-midi, je veux moins axer sur la dimension de la guérison physique de la dame. Bien sûr, c'est cela qui prend place. Mais davantage, encore une fois, dans la même continuité de ce que j'ai débuté avec vous depuis que je suis arrivé ici, à Mulhouse, la dimension de la vie. Une foi qui rétablit la vie, qui guérit la vie. Parce qu'en fait, la maladie de cette dame-là, c'est comme un handicap qui l'empêche de vivre ce qu'elle pourrait vivre, ce qu'elle devrait vivre. Elle est limitée dans toutes ses activités. On va le voir dans quelques instants. Mais Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et il ne dit pas, ta foi t'a guéri. Il dit, ta foi t'a sauvé. Maintenant, dans certaines versions, vous allez voir le mot guérir. Dans d'autres versions, vous allez voir le mot sauver. Mais le thème qui se retrouve dans ce texte, c'est le thème sozo, S-O-Z-O, qui littéralement veut dire guérir, mais dans le sens littéral de rétablir, de restaurer, de ramener à un bon état, de rebâtir, un peu comme lorsqu'on restaure une toile à sa qualité originale. Le sens anglais, c'est « make whole », c'est rendre complet, rétablir dans une certaine plénitude. Donc, ce message cet après-midi, vous pouvez l'appliquer à une dimension physique, bien sûr. Vous pouvez l'appliquer par contre à une dimension aussi qui est très blessure intérieure, aux situations, toute situation qui handicape ma vie, qui m'empêche de marcher sur le chemin de ce que Dieu a préparé pour moi, tous ces blocages intérieurs, tous ces éléments qui nous empêchent de devenir tout ce que Dieu voudrait que nous soyons, afin que nous puissions faire tout ce que Dieu voudrait que nous fassions et que nous puissions avoir en retour tout ce que Dieu a pour nous. Vous me suivez? Je pense que je l'ai dit un peu vite, hein? Seigneur, ma prière, elle est simple. Fais de moi ce que toi, tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que toi, tu veux que je fasse, et que j'en retourne, Seigneur, ce que toi, tu sois pour moi. Être, faire et avoir. C'est simple, trois simples verbes. Mais à la limite, ils sont tellement souvent impossibles à activer, parce qu'on a plein de choses à l'intérieur de soi. Tous et chacun, parfois c'est des inhibitions, parfois c'est des craintes inimaginables. Je vois souvent les gens parfois un peu comme des pays sous-développés. Ils n'ont pas réussi à grandir leur foi, à émerger, à éclore littéralement. Donc, ils fonctionnent toujours avec des sous-capacités, des capacités tellement limitées. Et c'est un peu ça l'image de la foi. C'est qu'à quelque part, je n'ai pas grand foi. Et vous savez, quand on voyage beaucoup, on remet les gens à nous voir et tout ça, on sent tellement une fragilité, une faiblesse. Mais c'est certain qu'il y a des gens que la vie a été tellement dure avec eux. Mais l'image la plus forte, c'est qu'ils sont parfois comme des enfants qui n'ont jamais grandi, comme si l'événement qui était survenu, les drames de leur vie, le manque de soins, le manque d'amour et d'affection, ont littéralement paralysé ou entravé leur développement. Ils n'ont pas pu devenir tout ce qu'ils auraient pu devenir. Maintenant, ça n'a pas entravé le développement physique, ce sont des adultes. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, on sent l'enfant à l'intérieur, comme des portions de leur nature, de leurs personnes qui ne se sont pas développées. Est-ce que vous saisissez ce à quoi je fais allusion cet après-midi? Mais la foi permet de déclencher tout ça. La foi nous pousse vers l'avant, littéralement. Or, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi, c'est ta foi qui t'a rétabli littéralement, qui t'a rendu complet, qui t'a ramené à un état de fonctionnement optimal, littéralement. Ce n'est pas une grande nouvelle que je vous annonce cet après-midi lorsque je vous parle que ça prend la foi dans la vie. La véritable question n'est pas toujours de croire, et de comment croire. Et dans ce qu'on va voir dans ce texte-là, on va commencer un petit peu à regarder tous les gestes et les activités de cette femme-là qui ont permis de dénouer cette situation. Mais juste avant, on va, juste pour vous convaincre que sa situation était vraiment désespérée, on va regarder au statut de cette personne-là. Premièrement, c'était, la Bible elle dit que c'était une femme qui s'approche de Jésus. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Là, on en fait une femme. Déjà, c'est un premier obstacle. C'est pourquoi, pasteur Mortis, vous avez un préjugé envers les femmes? Non, au contraire. Mais le monde a un préjugé envers les femmes. La société de l'époque avait un préjugé défavorable envers les femmes. Elles étaient sans droit, sans statut, sans valeur. Et déjà, c'est déjà difficile pour un homme de tirer son épingle du jeu, malgré toutes les possibilités dans cette société très patriarcale, très masculine, très, en guillemets, macho ou machiste. Et les femmes étaient laissées pour compte. Mais là, puis vous avez remarqué, vous savez, il y a un historien français qui s'appelle Henri Guillemin, qui est décédé maintenant, qui a dit un jour, « Une des preuves de la divinité de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est son rapport aux femmes. » Beaucoup d'illustrations de la part de Jésus. Dans un contexte, Jésus était tellement avant-gardiste. C'est une chose d'être 20 ans avant de ton temps ou 50 ans avant de ton temps, mais il était comme 2000 ans avant de son temps, en donnant un statut particulier, en se laissant approcher. Jésus et toutes ses relations avec les femmes, c'est fascinant de voir quand on perce, on compare à la fois les textes de l'Évangile et toute la culture de l'époque, qui est tellement difficile. On peut s'imaginer ça quand on voit certaines sociétés arabo-musulmanes, où on voit toutes les restrictions qu'ils ont. Je lis des articles à toutes les semaines, ils ne peuvent pas conduire la voiture, ils ne peuvent pas se promener en public. Il y a plein de restrictions comme ça. Fait qu'on peut s'imaginer, et quand je vous dis ça, pensez à ce que cette femme a dû déployer pour littéralement dépasser, transcender les obstacles de la culture de son époque. À la fois une culture, à la fois des éléments sociaux ou sociologiques, mais aussi la culture religieuse de son époque. Premièrement, permettez-moi de dire, vous savez, toute la révérence que j'ai envers les femmes, mais son premier handicap à cette personne, c'est que c'était une femme à l'époque. Okay? Deuxième réalité, c'est que c'est non seulement une femme, mais c'est une femme malade. Et pas de n'importe quelle maladie. Elle a une perte de sang, ce qui veut dire qu'elle est constamment en hémorragie, en perte de sang. Et toute sa vie, donc toute son indisposition mensuelle, est répétée à chaque jour. Toute sa vie est affectée, et je dirais littéralement affectée parce qu'elle vit. Sa vie, elle est conditionnée, elle est limitée parce qu'elle vit. Elle a une vie à vivre dont le cours ou le déroulement est dicté par sa maladie et les effets de sa maladie. Voilà pourquoi je disais un peu plus tôt, en introduction, c'est comme un handicap. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant toute sa vie est changé maintenant. Il y a des endroits qu'il ne peut plus aller, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Parfois, si c'est quadriplégique, paraplégique, ça va. Mais s'il est quadriplégique, il a besoin d'assistance constante. Toute sa vie est limitée par son handicap. Donc, c'est pas juste son corps qui est cassé ou qui est brisé ou qui est affecté, mais toute sa vie entière est affectée. C'est la grande, grande préoccupation de Dieu n'est pas tant le corps que la vie en général. Mais parfois, il va agir, bien sûr, pour guérir le corps, afin que la vie devienne ce qu'elle aurait dû être, ce qu'elle pourrait être, ce qu'il voudrait qu'elle soit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK. Une dame, une femme, elle est malade, mais en plus, elle est honteuse. Vous allez dire, comment vous faites pour savoir qu'elle est honteuse? Mais c'est évident. Probablement avec le type de maladie qu'elle a, c'est pas quelque chose dont on se vante. À la limite, un handicap, on peut donner une explication très socialement acceptable. Mais le type de maladie qu'elle a, c'est particulier. Mais qui plus est, c'est une dame qui est ostracisée, qui est mise de côté, qui est rejetée, qui est tenue à l'écart, qui est repoussée, irrepoussable. Pourquoi? Parce qu'en fond, on vit dans une société immensément religieuse, où les pharisiens et les religieux du temps avaient tellement de règles et de critères et toutes sortes de règles incroyables, OK? Et dans Lévitique, chapitre 15, cette femme-là était considérée comme une femme impure. Non seulement elle a une maladie qui physiquement la limite et affecte sa vie au complet, mais en plus, elle est l'objet d'un rejet que je qualifierais de religieux ou de socio-religieux, parce que toute la société est religieuse, la religion est à chaque instant. Elle est mise de côté, elle est rejetée parce qu'elle est considérée comme impure. Donc, on donne une connotation, une espèce de stigmatisation spirituelle à une femme qui est juste malade, juste, entre guillemets. Mais toute cette portion-là, puis je vous dirais, on peut regarder ça, on vous dit, ah, c'est incroyable, ce monde dans lequel Jésus a évolué à l'époque et comment il a dû faire évoluer les choses. Moi, je vous dis, il y a plein de gens. Fait quand on pense à leur maladie, on associe quelque chose de spirituel à cela. Quand, parfois, la plupart du temps, ça ne l'est même pas du tout. OK? Et au lieu d'avoir un support, un encouragement, la compassion, ça évite des choses. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Une des choses les plus difficiles, je vais prendre le risque de vous le dire, que j'ai vécu avec la maladie de ma femme, Et le décès de ma femme, c'est que des gens ont réagi dans le sens inverse de moi. Ils essaient de comprendre, malgré le fait que presque la francophonie entière priait pour elle, ils n'arrivent pas à dénouer le fait qu'elle soit morte. Puis les gens, c'est pas la majorité, toute une minorité de gens qui ont commencé à se tenir à l'écart. Le frère Morissette ou la sœur devait avoir quelque chose dans leur vie pour que Dieu ne fasse pas ce miracle. Voyez-vous? S'il y a quelque chose qui blesse quelqu'un, c'est comme ça. Nous, on a tout fait, on a prié, il y a eu des chaînes de prières partout à travers la planète. On a reçu des emails du Japon, du Brésil, de l'Afrique, de la France, de la Suisse, partout, des gens que je ne connaissais même pas. Il y a eu cet effort de solidarité spirituelle, mais les choses ne sont pas passées. Donc, au-delà de la douleur de perdre quelqu'un, il y a cette espèce d'effet de que je suis plus qualifié maintenant. C'est pour ce que Blaise Pascal a dit un jour. Les gens ne font jamais le mal avec autant d'ardeur que sous le couvert des convictions religieuses. Fort, hein? Pascal avait vu juste. Au nom de la religion, on va dire des choses parfois qui vont tellement blesser les gens. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je sors de mes notes en ce moment. Moi, quand je vais rencontrer Dieu au ciel, il ne sait pas encore, il va l'apprendre, mais j'ai un calepin noir, un petit carnet dans mes poches. Et j'ai plein de questions que je vais lui poser. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi ça s'est passé? Et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses dans la Bible qui ne sont pas tout à fait claires. Okay? J'aurais aimé ça que ce soit plus clair sur certains thèmes, sur certains sujets. Okay? Mais savez-vous quoi? Il y a un thème dans le Nouveau Testament qui est très, 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 très clair. C'est toute la question du jugement, de juger les gens. Et c'est probablement le péché le plus répandu dans nos cercles évangéliques. On juge les gens. Ils sont pas assez spirituels, ils sont pas assez ceci. Okay? La Bible, elle peut pas être plus claire que ça. Ça dit « ne juge pas ». Ou « qui es-tu, toi, qui juge? » Okay? Et c'est difficile parce que c'est la nature humaine, c'est le cœur humain qui tend à se comparer, à trouver des explications et tout ça. Cessons de juger. Moi, je voudrais que soit indiqué, c'est mon épitaphe, « ici gît celui qui ne jugeait pas ». J'aimerais ça. Je vais mettre ça dans mon testament. Mes dernières volontés. Pourquoi? Parce que le jugement, c'est une blessure tellement douloureuse. Okay? Non seulement on a à vivre les difficultés de la vie, on a à vivre les drames de la vie, mais en plus, plein de gens nous jugent dans des situations avec des espèces de théories mystico-bizarroïdes. Ils sont tellement loin de la compassion. Je la comprends, cette dame-là. Je la comprends. Elle était mise de côté parce que dans leur perception des choses, elle était impure. Son lit était impur, la chaise sur laquelle elle s'assoyait était impur, tout objet était impur, toute personne qui la touchait devenait impur. Tout cela mène au rejet, mène à la mise à l'écart. Et ça génère quoi? Ce sentiment qu'on appelle la honte. La honte, c'est un sentiment pernicieux qui nous dit à nous-mêmes qu'on est moins que rien, qu'on y arrivera jamais. T'es moche, t'es pas grand-chose. Regarde ce que tu es. Puis on n'a même pas besoin, quand on est rempli de honte, de se le faire dire. On est suffisamment capable par soi-même de donner nos pires oppresseurs. Vous savez, c'est quoi la honte? C'est l'émotion. Suivez-moi. Ça va être poétique en plus. C'est l'émotion que ressent une chenille quand toutes ses amies se changent en papillons et qu'elle, elle reste une chenille. Est-ce que je peux vous donner une meilleure illustration? C'est ça la honte. Les gens réussissent, les gens se marient, et moi je suis laissé là. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, nous a délaissés. Mais la honte, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est pas quelque chose, on ne vient pas au monde honteux. C'est quelque chose qui se développe avec des années au contact de cette humanité qui nous fait sentir qu'on est moins que rien, qu'on est peu. Ce que Jésus n'a jamais fait. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Merci. Quatrièmement, c'est une dame épuisée. Le texte nous dit qu'elle avait souffert entre les mains de nombreux médecins. Épuisée, au bout du rouleau, comme on dit. Elle avait tout essayé. Les théologiens disent que ce problème, à l'époque, était relativement courant. Assez courant. Et qu'il y avait plein de remèdes. Le Talmud dit qu'il y avait 11 différentes cures pour ce type de situation, pour soigner cette maladie. Il y avait des toniques, il y avait des potions. Et suivez bien cela, je ne sais pas si c'était efficace, transporter des cendres d'œufs d'autruche dans un sac de toile l'été. Vous Portez sur soi, écoutez, une autre recette, portez sur soi du maïs recueilli dans du fumier d'anesse blanche. Incroyable. Savez-vous à quoi ça me fait penser? À tous ces charlatans de la vie moderne qui proposent des cures miracles dans ce monde qui nous entoure, parfois dans nos cercles aussi. Le raccourci, le chemin le plus facile, tu vois, il fait ceci, il fait cela, OK? Qui exploite les gens, les amène dans toutes sortes de directions, les éloigne. C'est une femme malade, c'est une femme honteuse, c'est une femme épuisée, c'est une femme fauchée. Vous savez, quand on a l'argent plein les poches, plein de gens nous proposent des choses. Mais c'est incroyable comment ils disparaissent quand on est fauché, on n'a plus un sou. OK? Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Sixièmement, je crois que la somme de tout cela, c'est qu'elle était désespérée. Aucun soulagement, mais au contraire, la Bible, elle dit que son état empirait. Non seulement ça ne s'améliore pas, mais ça se détériore de plus en plus. Oui, ça, c'est la situation de cette dame. On la prend à ce moment de sa vie. Cette femme est désespérée, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui va commencer à changer. J'aimerais avec vous voir, ou littéralement, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, voir à fond et en détail les caractéristiques de sa foi. Comme si, encore une fois, la foi était un mécanisme qu'on va réussir à démonter ensemble. Cette caractéristique de la foi de cette veuve, la foi qui change le cours de la vie. Première caractéristique, une foi qui perçoit les opportunités. Le texte nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Le texte fait simplement nous dire qu'elle a entendu parler de Jésus. Maintenant, ça paraît simple, encore une fois, vous allez voir un peu ma façon de composer avec les versets. Juste un petit bout de phrase. Elle entend parler de Jésus. Mais puis, tout le monde entendait parler de Jésus à l'époque, il était quand même assez public. Sa réputation se répandait partout, dans toutes les contrées, la Bible dit. Mais elle entend parler de Jésus. Il était cool. Ah! Vous savez, quand vous êtes sur Internet, des fois, il y a ce qu'on appelle un pop-up. C'est cette petite fenêtre qui s'ouvre sans que vous la demandiez. Mais là, elle a eu un pop-up dans sa tête. Ah! Une petite fenêtre. Ah! Ayant entendu parler de Jésus. La fenêtre de l'espoir commence à émerger. Elle a juste entendu parler de Jésus. Le texte ne dit pas qu'elle a vu à ce moment, à ce stade-là, Jésus. Mais cette information qui pénètre dans son oreille, elle entend parler de Jésus, trouve un terrain favorable à l'intérieur d'elle. Maintenant, il y a des gens qui n'en entendent parler ou qui ne veulent pas en entendre parler. Ils se bouchent les oreilles, se ferment les yeux, je ne veux rien savoir de cela. Bien des gens dans notre société moderne entendent parler de Jésus, et au lieu de créer un effet favorable, ça crée un effet défavorable. Si un jour vous venez au Québec, vous avez remarqué que la société québécoise est assez particulière sur le temps religieux. La société québécoise est en réaction très, très virulente envers tout ce qui est catholicisme et christianisme. Okay? Vous savez pourquoi? Parce que ça fait partie de notre histoire, parce qu'on était tellement oppressés par une Église qui avait tout pouvoir sur la vie des gens, la gestion de la vie de famille, la quantité des enfants. C'était d'ailleurs les sociologues, la période de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 60, les sociologues ont une expression pour qualifier le Québec. Cette époque-là, ils l'appellent la grande noirceur. C'est puissant, hein? Comme s'il y avait une espèce de couvercle sur la société québécoise, OK, francophone. Et tous les gens étaient coincés. Et moi, j'ai des images de ça. Je vois ma mère quand je suis tout petit. Là. Ma famille, mes grands-parents, ils sont tous comme ça. Ils sont tellement limités. Un peuple qui est comme oppressé. Mais ce n'est pas une oppression physique. Il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a rien de cela. Juste quelque chose de tellement spirituel et psychologique. Or, à la fin des années 60, il y a eu ce qu'on appelle, l'équivalent un peu de mai 68, ici, il y a eu ce qu'on appelle, nous, la révolution. On l'appelle la révolution tranquille. C'est comme si on a mis l'Église dehors, qui nous asservissait depuis tellement longtemps. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et maintenant, il y a un grand vide spirituel. Les gens, ils veulent venir, mais ils ont tellement peur. Deuxièmement, c'est qu'on est tellement près de l'Amérique, avec tous les évangélistes qui passent à la télé et tout ça, avec toutes les exagérations incroyables que les gens, le Québec, vous savez, les évangélistes américains ne viennent presque plus au Québec. Ils appellent ça leur Waterloo. Ils se cassent tous la figure sur Montréal. OK? Mais on est en train de l'avoir, le Québec, par contre. À l'église où je suis, on a fait une percée incroyable sur le plan spirituel dans la province de Québec. C'est glorieux, c'est par la grâce de Dieu. Mais on sait que lorsqu'on compose avec cette population, qu'il faut comprendre que lorsqu'ils entendent parler de Jésus, ils n'entendent pas la même chose que nous. Mais est-ce que c'est la faute de Jésus? Bien sûr que non. C'est la faute de tellement de messages qui ont déformé l'Évangile qui fait que ça crée un effet d'aversion au lieu de créer un effet d'attraction. Mais ce n'est pas le cas de cette dame ici. Cette dame ici, le fait d'entendre parler de Jésus a fait naître en elle une vision pleine d'espoir. Elle entend parler de Jésus et tout d'un coup, quelque chose se met en mouvement. Vous savez, quand on est dans les difficultés, le danger est le suivant. Lorsque les difficultés nous assaillent, prochaine diapo, nous avons tendance à nous retourner sur nous-mêmes. OK? Conseil, lorsque les problèmes vont surgir dans ma vie, je vais garder les yeux grands ouverts sur les opportunités que Dieu me présente. Quand un drame ou un souci nous accable, on a tendance à se retourner sur soi-même. Je ne sais pas comment vous dites, nous on dit au Québec, ronger notre frein. C'est une expression qui veut dire qu'on comment tu as appelé ça? On rumine à l'intérieur, mais ce n'est pas le fameux ruminement. Là, c'est, tellement qu'on se ronge de l'intérieur, on est plein de soucis, on est tourmenté, tout ça, on rentre à l'intérieur de soi. Mais regardez bien ma position. Quand on est comme ça un petit peu, là, je ne parle pas physiquement, je parle intérieurement, je ne vois plus rien, moi. Là, je ne vois pas d'opportunité. Je suis absorbé par mon problème. Je ne vois plus ce qui se passe à gauche. Jésus pourrait être là, je ne le verrai pas parce que je ne le regarde pas. J'ai fermé mon entendement à toute opportunité. La première caractéristique de la foi de cette femme, c'est une foi qui perçoit, qui garde les yeux ouverts. Très grand. Deuxième caractéristique de cette femme, de sa foi, une foi qui pense. Car elle disait en elle-même, j'ai fait allusion un petit peu à ça dans l'autre texte du fils prodigue hier. Elle aussi, en voilà une autre qui se parle au lieu de s'écouter. OK? Et qui se dit en elle-même quelque chose. Que veut dire se dire en elle-même? C'est que penser d'une façon différente. Okay? On peut penser en termes de possibilités, tout comme on peut penser en termes d'impossibilités. Si vous remarquez vos relations les uns avec les autres, disons que vous arrivez à quelqu'un, vous lui dites, hey, j'ai un projet incroyable ou j'ai un rêve. Là, habituellement, dans 75% des fois, la personne va vous amener un contre-argument négatif pour étouffer tout ça. Ah, l'espace d'un instant, j'avais eu ce que je crois être une bonne idée. Maintenant, j'ai honte d'y avoir seulement pensé. OK? Est-ce que vous me suivez? Mais la véritable foi qui pense, je dis qui pense parce qu'elle se parle à elle-même, il y a quelque chose qui commence à travailler. Vous savez, c'est comme cette petite semence qui est déposée à l'intérieur d'elle-même. Elle entend parler de Jésus, puis elle commence à se parler. Mm-hmm. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que c'est très féminin. Mm-hmm. Quelque chose qui est en train de bouger. Mais elle commence à penser en termes de possibilités. C'est déjà un élément et une des grandes caractéristiques de la foi. Elle pense en termes de possibilités. La force de la foi, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Le problème dans la vie ou le danger, c'est lorsque les difficultés nous assaillent, nous avons tendance à mettre l'emphase sur les problèmes plus que sur les solutions. Okay? Conseil, lorsque les problèmes vont surgir dans ma vie, je vais cesser de perdre mon énergie à broyer du noir et je vais penser en termes de solution. On peut dire amen à cela. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais petit, tout jeune, petit garçon, petit bambin, mon grand-père avait un immense garage. En tout cas, dans mon entendement, il était immense. Il y avait trois portes de garage avec la mécanique et tout ça. Et mon grand-père, c'est un personnage assez spécial. D'ailleurs, tous les membres de sa famille étaient assez spéciaux. C'est des gens de leur époque, des années 40, des années 50 et tout ça. Et mon parrain, qui était son fils, était un des mécaniciens du garage. Puis à quelques reprises, durant l'année, on partait en voiture avec mes parents. On faisait 45 minutes de route. Il me semblait, quand j'étais tout petit, que c'était tellement loin. Et là, on arrivait chez grand-papa. Puis moi, j'arrivais dans ce temple de la voiture et de l'automobile. Vous savez comment c'est les garages à l'époque, hein? Les grandes portes en bois qui s'ouvraient, c'était pas tout automatique comme aujourd'hui, mais il y avait des comment vous appelez ça, pour soulever les voitures et tout ça. Et les élévateurs à voiture. Et nous, on appelle ça des lifts en français au Québec. Et c'est fascinant. Vous imaginez, les garçons, vous êtes capables de vous identifier à moi. Hein? On a tous le goût de l'huile. Ça sent le mâle. Ça sent la F1. Ça sent la voiture. Tous les gars, la voiture est à l'homme, parce que le cheval est au cowboy. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Bon, je vais m'arrêter là dans mon exaltation. Mais tout ça pour vous dire que je me souviens que j'allais au garage de mon grand-père. Et dans une des pièces à côté, il y avait ces immenses frigos au distributeur de coca de l'époque. Ils étaient ronds un peu, ils n'étaient pas stylisés comme aujourd'hui. Et à ce moment-là, les bouteilles de Coca-Cola, le véritable Coca-Cola américain, là, OK? Pas des copies, le véritable Coca-Cola américain. Et ceux qui sont de ma génération, c'était des petites bouteilles de verre de couleur verte. Souvenez-vous, est-ce que je suis seul sur la planète Terre à avoir vu ça ou bien est-ce que je suis dans un mode déduction? Ah, merci, rassurez-moi, OK. Et là, j'étais là, j'étais devant comme une icône, une statue, tellement j'étais prosterné devant le distributeur de coca. Et mon parrain, mon oncle, passait à côté de moi et il me disait, « Alors, mon garçon, tu veux un coca? » C'est vous ce que je répondais? « Je sais pas. » Ah, il me dit, « Si tu ne sais pas, je t'en donne pas. » Tout va bien. Il repartait. Et moi, j'étais là, mais des petits bambins. Imaginez-vous à l'âge de 7-8 ans, là. Je suis comme ça, là, tout petit, les pilotes courtes et tout ça. Okay. Pantalon court, short, comme vous dites en français. Et là, je suis là. Puis toute, chaque fibre de mon être, chaque cellule de mon corps aspire à avoir une bouteille de coca. Je vais passer la journée à la siroter, cette bouteille de coca-là, OK? Mon oncle repasse, puis il me dit, « Tu veux quelque chose, mon gamin? » Moi, je réponds, « Je sais pas. » Ça me fait du bien de vous l'exprimer. Je me sens en thérapie en ce moment. Ça fait longtemps que j'avais refoulé tout ça. Est-ce que vous croyez que je le savais, ce que je voulais? Pourquoi je ne le disais pas? Pour 200 euros, dites-moi pourquoi je ne dis pas. Oncle, je veux un coca et deux coca et trois coca et quatre. Je veux le frigo complet. Pourquoi je ne dis pas ça? Pourquoi je ne dis pas ça quand c'est ce que j'éprouve à l'intérieur de moi-même? Vous avez l'explication? Dites-moi c'est quoi l'explication? Mon éducation familiale. Chez nous, c'est péché de demander. Une maman qui élève bien ses enfants, tu vas passer pour impoli, et en plus, tu vas faire honte à ta mère, parce que si tu demandes quelque chose, ils vont dire, écoute, ta mère, elle ne te donne pas à manger, elle ne te donne pas à moi. Voyez-vous? Donc, elle transfère sur nous, là, les mamans, plein de mamans qui sont comme ça ici, là, OK? Et non, identifiez-vous, je ne veux pas que vous vous identifiez. C'est assez normal que vous vous sentiez coupable en ce moment, et je fais par exprès pour que vous vous sentiez coupable d'ailleurs, pour que vous puissiez changer tout ça, puis enlever les mains de l'oppresseur maternel sur les épaules de vos enfants, meurtris, affamés, assoiffés de coca. Mais l'idée est la suivante. Voyez-vous ce qui m'empêchait d'y aller? Et l'image et la représentation de cela, c'est ce que nous sommes devant Dieu bien souvent. Nous n'osons pas. OK? Comme si, à quelque part, voilà pourquoi. Quand je pense à cette femme qui entend parler de Jésus et qui commence à percevoir une opportunité, l'espoir est en train de renaître. Jésus. Ah, elle commence à se parler. Donc, une foi qui commence à chercher une opportunité. Jésus. OK, j'ai entendu parler de lui. Ce qu'on m'a dit de lui, c'est qu'il était un homme qui faisait des miracles. J'ai même entendu dire que peut-être que c'était le Fils de Dieu. Je ne sais pas encore, je n'ai pas eu de révélation. Mais je perçois quelque chose comme une opportunité et je commence à penser en termes de possibilités. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Troisième caractéristique de la foi, une foi qui planifie. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements. Je lui dis que c'est une femme. C'est vous, vous connaissez le vieil adage qui dit ce qu'une femme veut. Moi, ma femme était experte. Des fois, elle me disait, viens avec moi à la grande surface. Oh, chérie, je ne tente pas d'aller faire des emplettes dans la grande surface. Viens avec moi, je ne veux pas être tout seul, mais ça va être long. Tu vas passer chaque boutique et chaque petit, comment vous appelez ça ici, là? Les galeries marchandes, chacune des boutiques, une par une, il faut avoir une patience d'ange pour réussir à rien. Et je me souviens, la dernière fois que je suis allé avec elle, j'y vais. Pour la cour de route, elle voit la plus belle paire de bottes. Incroyable. Après, elle voit des souliers. Ma femme, c'est une femme de souliers, de bottes, de sacoches. En fait, c'est une femme tout à fait normale. Tout à fait normale, OK? Et là, je la vois s'approcher. Puis là, elle découvre les belles bottes d'hiver idéales. C'est vrai qu'elle est belle, hein? C'est merveilleux et tout ça. Et chérie, tu me les achètes, OK? Puis là, j'ai découvert que j'étais victime de manipulation. C'était pas ma présence qu'elle désirait. C'était ma carte de crédit qu'elle désirait. On a beau rire tout ça, mais il y a quelque chose d'admirable dans tout ça. Quand une femme veut quelque chose, messieurs, nous avons des leçons à apprendre d'elle. Okay? Là, je suis en train de me créer un fan club féminin en ce moment. Sérieux, nous, on est toujours bien, on est toujours raisonnable, on rationalise. Mais les femmes, quand elles veulent quelque chose, elles sont prêtes à tout. Et je crois qu'à quelque part dans tout cela, il y a cet élément de la foi. Elle se met à planifier. Elle planifie sa stratégie. Planification stratégique. C'est elle qui a inventé ça. C'est pas les HEC, là. OK? Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Elle savait qu'elle pouvait pas aller demander en public que le Seigneur la guérisse. Elle pouvait pas être ostracisée, être mise de côté. Elle a dû user de stratégie pour arriver à ses fins. Elle ne pouvait même pas être touchée directement, mais elle avait la foi de toucher juste le bord, la frange de son vêtement. C'est quoi le danger pour nos vies? Lorsque les difficultés nous assaillent, nous avons tendance à démissionner et à tout laisser à la dérive. On lâche, on abandonne, on lance la serviette. Fini. Elle ne le fait pas. Petit conseil cet après-midi. Lorsque des problèmes vont surgir, je vais élaborer une façon de mettre ma foi en œuvre de façon pratique et concrète. Et bon, cette femme-là avait une foi qui percevait les opportunités, qui pensait en termes de possibilités, non pas d'impossibilités. Elle pensait en termes de solutions et non en termes de problèmes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais elle planifie. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est un travail qui se fait à l'intérieur de soi, qu'il faut constamment remettre en lumière, remettre en jour, percevoir différemment, penser différemment. Puis peut-être même ça vous fait un peu bizarre d'entendre parler d'une foi qui pense, parce que souvent on va opposer la foi avec la pensée. Okay? Comme si la foi c'était quelque chose qui vient du cœur. Bien sûr, de cette motivation profonde. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel. Elle, il y a quelque chose qui travaille dans sa pensée. Elle entend parler de Jésus et encore une fois, elle commence à réfléchir aux possibilités. Okay? Et c'est sa pensée qui va littéralement commencer à concocter le plan pour arriver à ses fins. Voici une foi qui pense et une foi qui planifie. Bien sûr, il y a encore plus que ça. C'est une foi qui poursuit un but. C'est pas une foi égarée, c'est pas une foi floue et imprécise. Elle dit, je serai guéri si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements. Elle dit pas, et la phrase ne s'arrête pas là. Ah, si je pouvais toucher son vêtement. Ah, si je pouvais. C'est pas une, on appelle ça une groupie devant une vedette rock, là. Je peux toucher à Johnny ou je peux toucher à. Non, 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 non. Elle ne veut pas toucher pour toucher. Elle veut toucher pour être guérie. Elle a déjà les yeux fixés sur le dénouement potentiel. Voyez-vous la force de la foi? C'est ça la foi. Voyez-vous que là, c'est quelque chose d'un peu moins mystique, un peu moins, encore une fois, flou et quelque chose qui se précise. C'est un peu comme si on prend la lentille d'un télescope puis on commence à refaire la focalisation. Ah, l'image devient de plus en plus claire. Voici ce que je vise. Voici ce que je veux. Voici ce que je dois faire. Une foi qui poursuit un but. Le danger, c'est lorsque les difficultés demeurent dans notre vie, nous avons tendance à agir sans but ni direction et laisser tout aller au hasard. Si Dieu le veut, si Dieu le peut, laissez au hasard. Pourquoi laisser au hasard? Si vous laissez votre vie au hasard, le hasard va vous amener dans une direction que vous ne vouliez pas à l'origine aller. C'est à vous d'assumer la direction, tout ça. Conseil, lorsque les problèmes surviennent, je vais m'arrêter, prier et découvrir ce que je veux réellement. Si vous savez ce que vous voulez réellement et vous avez cette conviction profonde à l'intérieur de vous, vous allez prendre les moyens pour arriver à votre dénouement. à la réponse à votre besoin. Mais il faut le savoir. Encore une fois, un peu comme moi, quand je suis mort, ben, je le sais, mais je n'ose pas. Je le savais, mais je ne le voulais pas. Tu voulais pas la bouteille de coca? Oui, je la voulais. Je la voulais en théorie, pas en termes pratiques et actifs. Parce que si je l'aurais voulu vraiment, j'aurais pris en otage mon oncle. Je l'aurais forcé à l'avoir. J'aurais pris les moyens pour l'avoir. Comprenez-vous? Je voulais, mais je ne voulais pas. Je voulais pas, mais je voulais. Je voulais, mais je ne voulais pas. Voyez-vous? C'est l'exemple de bien, bien de croyants. Une foi qui poursuit un but. Cinquième caractéristique de la foi, une foi qui passe à l'action. Vous avez à peu près le même phénomène qu'avec le fils prodigue que nous avons développé hier midi. Les quatre premiers éléments de sa foi, c'est quelque chose de très intérieur, de très théorique. À la limite, là, elle s'arrête là. On peut dire, elle a vraiment une bonne perception là-dedans. Elle pense bien, là. Good thinking. Elle pense très, très bien. Elle est intelligente et tout ça. Sa planification stratégique, c'est très ordonné, c'est très bien. Son plan sur la base est fantastique, est merveilleux. C'est incroyable, cette femme-là. Donc, elle perçoit, elle pense, elle planifie, puis elle a vraiment ce qu'on appelle la poursuite du début. La poursuite du début, c'est une force vitale dans la vie humaine, de savoir vers où tu vas aller, d'aller dans cette direction-là. C'est incroyable. Mais tout ça, c'est théorique. Tout ça, c'est à l'intérieur d'elle-même. Et tout ça, ça, c'est un peu comme un plan. Ça a beau être merveilleux sur papier, mais le défi, c'est vous, c'est quoi? C'est de passer à l'action. Je me promenais hier, en fin d'après-midi, je regardais les plans de l'architecte sur le mur. C'est superbe, c'est vraiment beau comme plan. Mais quel est le défi maintenant? C'est pas en ayant un plan sur un mur que l'immeuble se construit tout seul. Il va falloir passer à l'action. Et c'est là, encore une fois, que toute cette différence entre les gens. Des gens qui vont vivre ce que j'appelle leur vie chrétienne sur le plan virtuel, à penser, à concocter, à réfléchir, à aspirer, à vouloir, à rêver. Vous connaissez le vieil adage? Au lieu de rêver votre vie, vivez vos rêves à la place. Et vivre des rêves, c'est passer à l'action. Alors, la caractéristique de cette femme, c'est une femme qui a passé à l'action, une foi qui passe à l'action. Elle vint dans la foule par derrière. Maintenant, c'est bien sa pensée. Je ne peux pas passer par la gauche, je ne peux pas passer par la droite, je ne peux pas affronter la situation de face. Mais elle ne se décourage pas. Ce n'est pas parce que je ne peux pas avoir accès à Jésus, je vais me faufiler. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais me faufiler dans la situation parce que je veux obtenir ce que je désire. Je ne veux pas vivre mon problème le reste de ma vie. Le danger, lorsque les obstacles se présentent, nous avons tendance à nous écraser et à rester passifs. Conseil, lorsque des problèmes vont surgir, je ne reculerai pas. Je vais aller de l'avant par la foi et malgré la crainte de la peur. Quelques années de cela, un de mes bons amis m'a invité à son chalet sur le bord d'une rivière. Il y avait un super bateau, un boat, et on pouvait faire ce qu'on appelle le ski nautique à l'arrière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, du ski nautique. C'est assez particulier, hein? En fait, le défi, c'est de partir, c'est de débuter. Habituellement, c'est toujours chute après chute après chute. Et moi, pour le genre de sport comme ça, je suis assez doué. Je n'ai pas fait ça depuis des années, mais 2-3 coups, j'étais parti, ça y est, j'y vais. Bon, maintenant, je ne fais pas des... vous savez ce que je veux dire. Probablement, j'ai la force de gravité qui m'empêche de le faire. Mais mon fils, encore une fois, mon fils William... Il est assis, puis je le vois dans ce petit bateau-là, ce bateau-là avec le gros moteur et tout ça. Puis il salive à l'idée de « je veux faire du ski nautique ». Fait que mon copain dit « laisse le faire, on va le mettre ». Je dis « il ne sera jamais capable ». Regardez le côté négatif. Okay? Il s'assoit sur le quai, okay, met les skis, enfile les skis, prend cette corde dans ses mains, ça. Et là le bateau part, fou, il a fait pas un mètre, fou. On recommence. OK, une fois, deux fois, trois fois, puis un mètre, deux mètres, trois mètres, fou, cale à chaque fois. Mais j'ai senti en lui monter la foi. Cette conviction profonde que malgré l'obstacle, je vais réussir. C'est fascinant de voir ça émerger de la vie d'un enfant. C'est comme si... C'est presque comme de la colère, un tout petit peu. Un refus de l'échec. Une obstination quasi fanatique. Mais respectable. OK? Mais après 5 ou 6 coups, je ne me souviens plus, il a émergé de l'eau. vous avez eu la plus belle expérience de sa vie. Waouh, j'ai réussi. Maintenant, il a fait peut-être 300 mètres, puis après ça, c'était recommencé. Mais ce sentiment fort dans la vie que j'ai réussi. J'ai réussi quelque chose. Puis je vous dirais, c'est un peu la même dimension. On se retrouve devant des obstacles et on lâche si facilement. Et on abandonne si facilement, comme si on n'avait pas cette force intérieure de dire, un obstacle, ce n'est pas la fin du livre, c'est juste peut-être la fin d'un chapitre. C'est une étape sur le chemin pour l'atteinte de ce qu'on désire profondément. Alors, une foi qui passe à l'action, okay, c'est une foi qui passe en ces termes-là. OK? Lorsque le danger, lorsque les obstacles se présentent, nous avons tendance à nous écraser, à rester passifs, je le répète. Mais lorsque les problèmes vont surgir, je ne reculerai pas, je vais aller de l'avant par la foi et malgré la crainte et la peur. Je vais surmonter ça. Sixièmement, une foi qui persévère. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? C'est les apôtres qui répondent à Jésus. Disons, quand j'utilise ce texte-là, en ce moment, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que la persévérance vient faire avec ce texte-là? C'est bien simple. Pensez pas que par le fait que cette femme-là décide d'avoir accès à Jésus, qu'elle va avoir accès à Jésus facilement. Le texte mentionne que la foule est presque compactée. Vous avez déjà vu une foule? Je ne sais pas si vous avez déjà cité une foule quand quelqu'un est de passage ou parfois, malheureusement, ça peut être dans une émeute. Ça fait comme un bloc. Même dans les lieux d'un accident, les ambulanciers, souvent, ont de la difficulté parce que la foule se compacte littéralement et elle ne peut pas passer. En fait, littéralement, il faut qu'elle se fraye un chemin jusqu'à Jésus. Maintenant, moi, dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés, ça a changé beaucoup maintenant, avec le mot persévérance. Je ne comprenais pas la notion de persévérance. Pour moi, la persévérance, c'est une espèce de sous-produit de la foi. Vous voyez bien ma pensée. C'est comme si, vous savez, vous, pauvres croyants qui n'avez pas la foi, au moins accrochez-vous et persévérez. Vous voyez, c'est comme un sous-produit de la foi. C'était ma mentalité, jusqu'au jour où j'ai lu que c'est par la persévérance qu'Abraham a obtenu la promesse. Et là, pop. La persévérance, elle est indissociable de la foi. Trouvez-moi quelqu'un de qui croit et je vais trouver quelqu'un de persévérance. La persévérance, ce n'est pas une qualité, une sous-qualité de la foi. C'est indissociable de la foi. Les gens qui croient persévèrent et persévèrent. Et pourquoi? Parce qu'ils y croient. Ils savent que la foi ne crée pas les choses de façon instantanée. Parfois, il faut avoir cette persévérance. Le père de la foi, si le père de la foi a dû apprendre la persévérance, à combien de plus fortes raisons chacun de nous devons l'apprendre? Parce qu'il y a des obstacles qui se glissent dans nos vies en cours de route. Je demandais aux musiciens et aux responsables de la louange de s'approcher, s'il vous plaît, sur la plateforme. Danger. Lorsque les difficultés demeurent, nous avons tendance à voir les obstacles comme des empêchements au lieu de stimulants. Au lieu que ça nous fouette littéralement, comme si on disait on doit aller de l'avant, ça fait l'effet inverse. C'est ça le danger. Petit conseil, en ce milieu d'après-midi, lorsque les problèmes persistent, je ne me laisserai pas abattre par les obstacles, mais je vais persévérer et aller de l'avant. Ce que j'appelle la force de la persévérance ou la puissance de la persévérance. Je vais aller de l'avant, je vais faire une brèche, je vais marcher, je vais aller dans cette direction. C'est ce qu'elle a fait, cette dame-là. Elle doit à quelque part, je ne sais pas comment elle a fait, est-ce qu'elle a marché au sol, on n'a pas d'image, CNN n'était pas là, on n'a pas vu. OK? Mais une foi qui persévère. Et en dernier, bien sûr, septième et dernier point, une foi qui produit un résultat. Une foi qui est axée sur le résultat. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Une foi qui produit un résultat. Vous allez dire, « Pasteur Morissette, la foi qui produit un résultat. » Ah ouais. Parce que la foi, elle pense au résultat. La persévérance fait le chemin. La persévérance, c'est le chemin, c'est le parcours pour se rendre jusqu'au dénouement. Mais la foi ne s'arrête pas sur le chemin, mais s'en va jusqu'au dénouement. Okay? Ce que j'aimerais vous convaincre cet après-midi, pour beaucoup d'entre vous, peut-être cette semaine même, malgré toutes les bénédictions et tous ces temps de prière, vous avez arrêté en cours de route. Vous êtes arrêté là. Vous dites, moi, c'est une belle semaine pour plein de gens tout autour de moi, mais moi, je n'ai pas vu le dénouement de ce à quoi je m'attendais. Ce pourquoi j'ai cru, je ne l'ai peut-être pas vu se manifester. J'aimerais vous dire que ce n'est pas terminé encore. Ça se termine ce soir. OK? Pas de tisane avant minuit, c'est ça? OK? On a encore du temps. Et là, c'est le temps de la persévérance. La foi, avoir accès sur ce dénouement-là. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le danger, le grand danger dans la vie, c'est de refuser de mettre notre foi en action et ainsi passer à côté de la vie que Dieu m'offre. Ça, c'est le grand danger. Je n'ai pas osé. La foi n'était pas présente dans ma vie. Le conseil, je ne passerai pas à côté de la vie que Dieu m'offre. Je vais saisir la foi que Dieu me donne. Que votre prière après-midi soit simplement, « Seigneur, augmente ma foi. » Je ne la sens pas cette foi-là, mais la foi, plus que toute autre chose, ça ressemble davantage à un muscle qui s'exerce et qui se renforce. Si je vous demande de faire 30 pompes ici cet après-midi, pour beaucoup, ça va être difficile. Mais je vous le dis, un entraîneur peut réussir à vous en faire d'ici 2 semaines. Il va vous faire travailler fort. Et vos muscles vont se renforcer. Vous allez dire, « Ben, je vais 30 pompes, 40, 50, je suis rendu à 5, tout ça. » Mais tout ça se développe, doit se développer en cours de route. Et c'est ça, la réalité de la foi. La foi, peut-être cet après-midi, vous avez juste un tout petit peu de foi. Vous dites, je me sens, je ne la sens pas cette foi. Que cette conviction-là ne grandit pas à l'intérieur de moi. Elle peut continuer. Elle peut grandir. Elle peut progresser. Elle peut s'amplifier. Elle peut grandir, cette foi-là. Elle peut augmenter. Parce qu'ils ont prié, Seigneur, augmente notre foi. Aide-nous à ce que cette foi grandisse. En conclusion, cet après-midi, qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, nous, on voudrait voir pour croire. Mais si vous voyez, vous n'avez pas besoin de la foi. La véritable foi, c'est de croire pour voir. C'est juste l'inversion du processus. Oui, mais je ne le vois pas. Crois. Et encore une fois, c'est vrai sur le plan spirituel, mais c'est vrai pour plein de situations dans la vie. Plein de gens qui ont eu des projets incroyables dans ce monde autour de nous avaient commencé à imaginer leur tête, à vouloir voir quelque chose. J'aime ça. Pensez à, ça me vient tout bonnement comme ça, pensez à Gustave Eiffel qui a pensé à la tour. Et à un moment donné, ça a commencé dans sa tête, il a commencé à dessiner ça, puis aujourd'hui, mais Paris sans la tour, ça ne serait pas Paris. C'est la caractéristique de Paris. C'est le symbole de Paris. Voyez-vous? Mais le gars, il faut qu'il lui pense. La foi, c'est ça. C'est la capacité de voir et de voir se manifester, de croire et de voir se manifester ce pourquoi nous avons cru. D'ailleurs, c'est cela la récompense de la foi. C'est de voir ce qui était invisible, de le voir se manifester dans la visible. La Bible, elle dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, beaucoup de croyants ont tendance à lire ce dernier verset de façon négative. C'est ça, je ne suis pas agréable à Dieu, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Non, non, non. Quand Dieu est admiratif de ses enfants qui exercent la foi, comme un père, comme moi devant mon fils qui est en de ski nautique. Quand je l'ai vu, je l'ai admiré. Waouh, c'est mon fils. Il a persévéré malgré des obstacles. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Quand je mets ma foi en exercice, je sais que Dieu jette un regard agréable sur moi. Il jette un regard agréable sur moi. Il se plaît, il se complaît de me voir ainsi agir. Mais la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Maintenant, on ne parle pas de l'existence de Dieu dans le sens d'une révélation. Dieu existe. Donc, Dieu est là. Et que Dieu est là pour moi. Vous avez la conviction que Dieu est là pour les autres. Et parfois, vous n'avez pas la conviction qu'il est là pour vous, spécialement pour vous. Mais c'est là la relation qu'on a, intime et personnelle avec lui. Celui qui s'approche de Dieu. Seigneur, je m'approche de toi cet après-midi. Parce que je sais que tu es là. Tu existes, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là pour moi en particulier. Pour moi personnellement. Et chacun de nous, on peut le dire pour soi personnellement. Et quand je m'approche de Dieu et que j'ai cette conviction qu'il est là pour moi, je sais qu'il est là, j'ai cette assurance qu'il est là pour moi, je sais qu'il répond. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est celui qui répond à cette quête, à cette recherche. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Nous, on va se lever ensemble. Je ne ferai pas d'appel cet après-midi. On va se reprendre ce soir pour la deuxième portion de la foi dans la vie. Je vais vous demander, pendant que les musiciens jouent tout doucement, de rester à vos places. Juste que j'aimerais que ne bougez pas juste pour 2-3 minutes à peine. peut se terminer par un mot de prière. Je vais vous demander de fermer les yeux, tout le monde. Fermez tous les yeux, quelques instants. Fermez tous les yeux. Les deux yeux. Je ne bouge pas. Ayez cette sécurité qu'on peut juste fermer les yeux comme ça. Si ça vous dit de lever les mains devant le Seigneur, faites-le. Juste en entrant en sa présence quelques instants. Jésus, il est là. Je crois que tu es ici cet après-midi, Seigneur. Je le sais. J'ai cette assurance que tu es là, Seigneur. Et je veux faire affaire avec toi. Donnez l'espace de quelques instants placé devant Dieu. À votre place. Ce besoin particulier. Ça peut être un besoin physique. Ça peut être la maladie physique. Ça peut être un besoin davantage émotionnel ou psychologique. Quelque chose, les craintes, les peurs, les phobies, peu importe. Les inhibitions, quelque chose qui vous contraint, qui vous restreint constamment. Ce sentiment d'oppression particulier et particulièrement désagréable. Peut-être que c'est un besoin relationnel dans votre famille, votre mariage, avec vos enfants. Vous avez quelque chose qui vous affecte, qui vous fait mal, qui vous blesse. Quelque chose qui ne se dénoue pas, une situation qui perdure. Et perdure depuis tellement d'années. Là, tout d'un coup, il y a ce prédicateur du Québec avec un drôle d'accent qui se présente à vous et dit, on va mettre notre foi en activité. Comme cette dame qui avait une perte de sang. Ce ne sont pas tous les miracles de Jésus qui ont été retenus et documentés dans les évangiles. Mais celui-ci a comme été sélectionné par le Saint-Esprit pour nous servir de modèle et d'instruction. Une dame inconnue dont on ne sait pas le nom, qui avait une perte de sang, qui était laissée pour compte par la société de son époque, par son monde, par les gens, qui tout d'un coup a assisté à un heureux dénouement de sa vie. Et Jésus lui a dit quoi? C'est ta foi qui t'a sauvé, c'est ta foi qui t'a guéri. Cet après-midi, je veux vous amener à mettre votre foi en pratique. Faites-la à votre place pendant quelques instants. Prenez cette chose, mais peut-être mettre juste vos mains comme ça en disant, Seigneur, je place cela devant toi. Tu vois mon besoin. Tu vois ma situation. Tu vois ma condition. Tu vois la condition de mon mari, de ma femme, de mon fils, de ma fille, de mes parents, de gens autour de moi. Tu vois cette situation qui, Seigneur, j'en suis usé par ce que cela dure depuis tellement d'années. Mais là, cet après-midi, à ce moment en particulier, tu es ici. Et c'est ici maintenant que les choses peuvent se passer. Tiens, je place entre tes mains. Dites-le lui en ce moment. Tu m'entends ce doux murmure de vos voix qui offre à Dieu ce besoin particulier, qui présente à Dieu ce besoin particulier. Alléluia. Dites-le lui. Simplement, mettez votre foi en action. Je sais que certains ont peur en ce moment. J'ose pas tout d'un coup que ça ne marche pas. La foi saisit le visible dans l'invisible, l'insaisissable. C'est ce que la foi fait. C'est ce que la foi fait. Peut-être certains, vous n'osez même pas croire, vous pouvez dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Dites-lui, Seigneur, viens au secours de ma foi. Peut-être que vous sentez votre foi toute petite. Dites au Seigneur tout simplement, cet après-midi, Seigneur, augmente ma foi. Parce qu'on a tous des obstacles. Qu'on soit un jeune converti, qu'on soit plus âgé, qu'on soit dans le ministère. Le ministère, on a fait face à tellement de grands obstacles. Les obstacles augmentent au fur et à mesure que notre foi augmente, comme si à quelque part, on devait toujours progresser et jamais arrêter. Il y a des obstacles. Peut-être des obstacles dans cette église, si je pense à cet agrandissement, ce projet qui maintenant est arrêté. Seigneur, par la foi, on veut saisir le dénouement, on veut voir le dénouement de tout ça. Seigneur, que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il y ait un déblocage, quelque chose que, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses, on veut faire affaire avec toi. On reconnaît notre impuissance dans notre condition, on reconnaît notre condition d'humain, et Seigneur, on a besoin de toi. On a fait ce qu'on avait à faire. On a planifié, on a imaginé, on a prié. Mais Seigneur, maintenant, les choses sont entre tes mains. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu interviennes dans cette situation-là, de façon surnaturelle et miraculeuse. On dit, enfin, gloire à Dieu. L'emprise a été relâchée. Et maintenant, on est libre. Cette Église est libre de devenir ce qu'elle pourra être, tout le rayonnement qu'elle peut avoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te prier en ce moment pour tous ces hommes et ces femmes, ici dans ce lieu. Passé cette semaine fatigué, affamé. Seigneur, je prie que tu les touches en ce moment. Je prie qu'en ce moment puisse monter à l'intérieur d'eux cette force de conviction. Et oui, si c'était possible, Seigneur, tu as dit, tout est possible à moi, mais tout est possible à toi qui crois aussi. Tout est possible à celui qui croit. Et si tout était possible, et si tout d'un coup c'était possible, et pourquoi ça ne serait pas possible? Pourquoi? Pourquoi ça ne serait pas possible pour moi? Seigneur, touche-les en ce moment. Que par ton esprit, je prie pour un dénouement de leur situation. Je prie que ce qui va se passer durant toute cette semaine, ou ce qui s'est passé, ce qui se passera, ce qui se passera aujourd'hui, Seigneur, nous serve de repère pour le futur en disant, quand j'ai mis ma foi en action, les choses se sont dénouées, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, on te bénit. Parce que c'est toi le grand Dieu. Et c'est toi qui réponds et réagis à notre foi. Sois honoré pour cette œuvre merveilleuse. En Jésus, je te prie. Amen et amen et amen. Alléluia, Jésus. Thank you.